Voilà pour ça. Donc, j'inviterai maintenant Dominique Préjean, comme je vous disais, jeune homme rempli d'intelligence et de sagesse, qui va nous amener la parole aujourd'hui. Merci.
Ça marche. C'est-tu à moi, ça? Oui. C'est à moi. Merci beaucoup. Alors, les présentations sont un petit peu faites, mais je vais quand même rajouter, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, c'est qui ça? Bien, le pasteur Réal l'a un peu expliqué. C'est la première fois qu'on se voit, c'est parce que ça fait à peu près un an ou moins que vous êtes ici. Qui sont ceux que ça fait un an ou moins qu'ils sont ici? Levez la main. Oui, quand même. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que quand on nous a chippé dehors, ça a fait rentrer du monde. C'est pas très rassurant, mais bon, c'est peut-être une bonne formule. Il faudrait en chipper d'autres dehors. Ça fait remplir l'église, c'est intéressant. Non, mais c'est ça, à peu près il y a un an, on était ici justement sur l'estrade, ma femme, mes enfants et moi, pour être encouragés, bénis, et puis on a prié pour nous afin de nous libérer pour la chute. C'est une petite contrée pas très lointaine d'ici. Fait que ça, c'est pour les nouveaux. Pour toutes les autres, je suis content de vous revoir. C'est vraiment un plaisir. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus. Et d'ailleurs, vous ne venez pas souvent faire votre tour à la chute. On va s'en reparler. Je n'ai pas fini avec vous. Et je suis également content qu'on ait utilisé, Dr. Vellman, qu'on vous ait fait présenter la série de ce mercredi qui parle de Luther. On fête cette année le 500e parce que je veux me servir un petit peu de ça, moi, avec, pour introduire le message que je veux vous présenter, qui est un peu axé sur l'Épître aux Hébreux, bien sûr. Je vais présenter, vous teaser sur le contenu du cours que je vais donner ce mercredi à partir de 7h, et non 7h30. Jeudi. Alors, voilà. Donc, j'aimerais à ma façon rendre hommage à Luther, au réformateur en général, mais à Luther tout particulièrement, puisque c'est de lui qu'on va parler surtout. Mais d'une façon particulière, c'est que, selon mon humble avis, et ça vaut ce que ça vaut, là, le plus grand honneur qu'on pourrait rendre aux réformateurs, à Luther en particulier, serait de ne pas les considérer ou de le considérer comme infaillible et incontestable, mais au contraire, plutôt de s'approprier l'attitude que lui-même a mis de l'avant. C'est-à-dire le questionnement de toutes les traditions à la lumière des Écritures. Excusez-moi, j'arrange la patente ici. Hein? Voilà. Parce que le véritable cœur de la Réforme, ben là, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça, mais ce n'est pas grave, j'ai au moins récolté quelques petits détails, mais ce n'est pas pour vous entretenir là-dessus. C'est que le cœur de la Réforme, au départ, ce n'était pas une contestation de l'autorité de Rome nécessairement. Ce n'était pas non plus une contestation des indulgences, quoique ça a été l'élément déclencheur, mais ça a été surtout, en fait, une réaffirmation de l'autorité plénière des Écritures et aussi de la façon, si on pourrait dire, de l'interpréter, d'interpréter son texte. Et je me base sur le cours d'herméneutique que j'ai pris ici il y a un an ou deux avec Félix Polius, mes hommages, monsieur. Et j'aimerais d'ailleurs, à ce sujet, vous faire une courte citation. Je vais vous lire un court texte que j'ai tiré justement des notes de cours de du cours d'herméneutique. Herméneutique, c'est quoi? L'interprétation, l'art de l'interprétation des Écritures. J'ai vraiment de la misère avec ça. Ici, excusez-moi. Alors voilà. La réforme protestante et évangélique du 16e siècle est d'abord une réforme des principes d'interprétation des Écritures saintes. Luther a formulé un principe qui s'avérera définitif pour l'interprétation biblique, et ici une citation de Luther, « Aucun croyant chrétien ne devrait être forcé de reconnaître aucune autorité au-delà de l'Écriture sacrée qui seule est investie du droit divin. » Fin de la citation. Contre les prétentions de la papauté de l'époque, Luther déclara ainsi l'Écriture comme son propre interprète par l'action du Saint-Esprit, indépendamment des affirmations des pères de l'Église, des conciles et des théologiens, bien que Luther reconnaissait l'importance de la tradition et de l'histoire ecclésiastique des pères de l'Église, parce que les théologiens aussi, il en était un lui-même. Par contre, ce qu'il a voulu faire surtout, c'est libérer la parole de Dieu de l'emprise des spécialistes de la religion. Donc, à ses yeux, ce ne sont pas les pères ou la tradition qui peuvent s'ériger en juge des Écritures, mais ce sont les Écritures qui jugent les pères et la tradition. J'ai au moins trois raisons pour lesquelles j'ai voulu me servir de l'héritage de Luther pour introduire mon message. La première de celles-là, c'est qu'on n'est pas immunisé contre l'idolâtrie de la tradition, même ici dans l'enceinte sacrée de la Bible parle. Et nous ne sommes certainement pas innocents d'une idolâtrie de nos prédicateurs préférés, de nos saints-pères et papes évangéliques, il y en a. Et pour le vérifier, en fait, j'aimerais vous challenger, vous défier, parce qu'on se dit, ah, ben non, pas moi, c'est sûr, moi j'échappe à ça. Eh bien, risqueriez-vous l'inconfort déstabilisant, je vais le dire comme ça, d'une cinquantaine de kilomètres, à peine, au nord-ouest de Fabreville, en terre inculte et sauvage, dans un village reclus, perdu, dangereux, celui de la chute, par exemple, juste ça de même, c'est l'idée qui venait comme ça spontanément. Juste question de savoir à qui vous êtes attaché. Je ne sais pas, êtes-vous vraiment attaché au Seigneur de votre vie? Ou bien vous êtes attaché à l'idée que vous vous faites de la vie chrétienne? Non, sans juger personne, évidemment. Peut-être que c'est vraiment votre place ici. Êtes-vous attaché à ce que le Seigneur vous dit? Avez-vous osé vous lui demander si c'est votre place ici? Ou bien vous êtes trop attaché au guili-guili de votre pasteur préféré? Ou enchaîné à votre réseau d'amis, peut-être? C'est peut-être ça qui vous retient de connaître le Seigneur davantage. Bref. Moi, je pense, en tout cas, c'est pour ça que je vous défie, dans le fond, de demander à Dieu, honnêtement, si vous ne seriez pas, ça ne serait pas le temps pour vous et votre famille de venir partager vos dons et vos faiblesses dans une de nos missions locales. Mission, là, c'est en dehors de la porte ici, là, c'est pas dans un autre pays, là, ça commence là, en dehors de la porte. Les missions locales, on en a quelques-unes. Fait que vous pourriez peut-être vous investir, donner vos dons et vos faiblesses, parce qu'on a besoin de vos problèmes, sinon nos dons ne servent à rien. Fait que on met ça ensemble, mais c'est peut-être pas ici que vous avez à les partager. C'est peut-être dans une de nos missions locales, comme la chute, par exemple. Mais ça, c'est juste comme ça que je dis ça. De toute façon, il n'y a rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez tout à gagner de demander au Seigneur si vraiment c'est votre place ici ou ailleurs. Parce qu'on a au moins une promesse qui ressemble à ça, c'est que si le Seigneur ferme une porte, vous ne pourrez pas l'ouvrir, et personne d'autre d'ailleurs. Et s'il ferme une porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais s'il ouvre une porte, vous ne pouvez pas la fermer, et personne d'autre non plus. Fait que c'est rassurant, dans le fond. T'sais, c'est le Seigneur qui est en contrôle. Fait que ça, c'était la première raison pourquoi je veux me servir de l'héritage de Luther pour vous parler aujourd'hui. La deuxième, c'est parce que j'aimerais vous entretenir sur l'Épître aux Hébreux. Et puis, pourquoi? On sait que l'Épître aux Romains, pas aux Hébreux, mais aux Romains, a vraiment servi de fondation, si on veut, même préparatoire à la conversion de Luther, tout spécialement le chapitre 1, verset 17, qui était le pivot de sa théologie, si on veut. Mais ce que j'ai découvert assez récemment, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui préoccupait ou ce qui occupait sa réflexion biblique pendant le temps qui a entouré les 95 thèses, cet événement-là, là, on parle de Pâques, 1517 à mars 1518 à peu près, ce qui occupait la pensée, la réflexion théologique de Luther, c'était ses commentaires et son cours sur l'Épître aux Hébreux. Fait que, puisqu'on fête ça cette année, pourquoi ne pas aussi s'imprégner de ce qui occupait sa pensée aussi à cette époque-là? Fait que ça pourrait peut-être nous mettre dans le bain des 95 thèses, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous dire rapidement que Luther a quand même émis quelques réticences à l'égard de l'Épître aux Hébreux. Ce n'était pas son livre préféré dans la Bible, mais ça, ce n'est pas grave. Ça lui a quand même permis de peut-être préciser son intuition à ce moment-là, mais ça lui a aussi permis de formuler peut-être un de ses piliers théologiques les plus importants. Et je vous cite cette parole de Luther. « L'homme est incapable de se relever seul d'un péché quelconque. » Je répète, l'homme est incapable de se relever seul d'un péché quelconque. Ça vient remettre en question certaines théologies ou certaines compréhensions de la doctrine de la repentance dans nos églises qui se disent réformées. Et dites-moi, on sait que c'est dans, dans le cadre de l'Épître aux Hébreux qui a dit ça, mais plus précisément dans le cadre de quel passage de l'Épître aux Hébreux a-t-il pondu cette déclaration-là? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Dr. Vellman, c'est sûr que vous savez ça? Non? Le chapitre 6 d'Hébreux. Le fameux chapitre 6 d'Hébreux qui vient déranger tout le monde, qui attire les foudres de certains, les louanges de d'autres. Le chapitre dont on se sert soit pour appuyer notre conviction qu'on peut perdre notre salut, triste conviction, je trouve ça tellement poche, mais où on peut s'en servir aussi, certains s'en servent pour appuyer justement le contraire, la sécurité éternelle. Mais le problème, c'est qu'on a tellement été obsédés par la volonté d'avoir raison qu'on a complètement oublié le fil conducteur qui est aussi dans ce passage-là, mais celui de toute l'Épître aux Hébreux. On a été omnubilés, attirés, aspirés par la polémique et on perd de vue le fil conducteur de toute l'Épître aux Hébreux qui, lui, nous révèle justement que c'est ça, c'est notre tentative d'essayer d'avoir Dieu de notre bord, de notre point de vue, qui est le nœud de notre problème. Un peu comme Josué, à l'entrée du pays de Canaan, là, la veille ou le jour même là, qu'il rentrait là, là qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une apparition, un homme impressionnant qui avait une épée nue dans la main. C'est l'ange de l'Éternel. Josué risque de lui demander, « Es-tu contre nous? Ou es-tu pour nous ou contre nous? » Bien, comme à Josué, Dieu, dans nos faux dilemmes avec sa parole, peut nous répondre « Non ». Non. Non à quoi? Non. Je suis ici. C'est moi qui est là. C'est moi qui mène. Toi, où es-tu? Toi, avec qui es-tu en communion? Fait qu'on a beaucoup de faux problèmes avec l'Épître aux Hébreux. J'aimerais bien le dire comme ça, en fait. On va donc s'attarder, pendant ce cours-là, sur, évidemment, les principales interprétations de ce passage, entre autres, mais de beaucoup d'autres, mais de ce passage-là quand même, parce que c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui nous, en tout cas, qui habite ou qui inquiète certaines personnes. Je vais donc m'attarder sur les interprétations principales. On ne va pas aller voir partout parce qu'on pourrait se perdre là-dedans aussi. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur celles que je trouve un peu boiteuses, un peu farfelues, et j'ai le regret de dire, sans discréditer l'homme, que celle de John MacArthur ne fera pas partie du cours parce que, bon, en tout cas, je pourrais expliquer pourquoi, là, mais c'est... Bref... Mais on va vraiment avoir beaucoup de plaisir à découvrir des choses assez solides là-dedans. Et maintenant, ce matin, pour vous mettre l'eau à la bouche, ça veut dire soit vous mettre en appétit ou vous donner la nausée. Là, dans les deux cas, ça s'applique. J'aimerais vous dire que, selon de très récentes découvertes, les miennes, la clé de l'énigme de ce fameux chapitre 6... se trouverait, là, soyons conditionnels parce que je suis pas... Se trouverait exactement sous notre nez dans ce passage et qui nous... En fait, la réponse, l'énigme, la clé de l'énigme nous regarde droit dans les yeux. Quand on lit chapitre 6, nous regarde droit dans les yeux à partir d'un petit verset qui passe presque inaperçu et même un petit mot. Et on va le voir ensemble. On va lire justement le Hébreux 6. C'est drôle, je vous livre quasiment la conclusion du cours. C'est quand même, là, je suis vraiment généreux, je trouve. Je viens peut-être de découvrir, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui disent, j'ai plus besoin de prendre le cours d'abord. Mais ça ne sert à rien d'avoir une formule et pas savoir comment l'appliquer. C'est comme si je vous dis E égale MC2. Tout le monde est comme, ouais, c'est hot, ça a changé le monde, mais je ne sais pas pourquoi. Bien, c'est ça, je vous donne la formule à matin, mais êtes-vous capable de l'expliquer après? Ça, c'est une autre question. Venez prendre le cours. Hébreux 6, versets 1 à 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et je fais une pause ici. Parfait, qu'est-ce qu'on entend par ici? Tendons à ce pour quoi on a été appelé. Tendons vers la maturité. Le but ou le thème principal de l'Épître aux Hébreux, c'est la maturité, un appel à la maturité. Voilà. Donc, tendons vers ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisque qu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Bon, le fameux passage. En partant, ce passage-là soulève des questions auxquelles il faut répondre si on veut comprendre l'enjeu. Et j'en ai formulé quelques-unes. Ces questions pourraient être, entre autres, et on va essayer d'y voir dans le cours, pas ce matin. L'auteur ici, parce qu'on ne sait pas c'est qui l'auteur, l'auteur parle-t-il de véritables croyants dans ce passage-là? Il y a différentes écoles de pensée selon d'où vous venez. Oui, il parle de vrais croyants, et nous verrons pourquoi lors du cours. C'est presque incontestable, en fait. Cette portion du texte, est-ce qu'elle est, au fond, une sorte d'hypothèse improbable, genre le texte serait hypothétique, on fait juste dire ça, mais dans le fond, c'est de la rhétorique, ça ne se peut pas. Ou est-ce que l'auteur parle de croyants pouvant vraiment tomber? Oui, les croyants peuvent vraiment tomber tel que décrit dans le texte. On va voir pourquoi lors du cours. Mais alors, si c'est le cas, qu'est-ce que l'auteur entend par « tomber » C'est très important, ce mot-là. Eh bien, il ne veut pas dire de perdre le salut. On verra pourquoi lors du cours. Mais alors, si donc c'est un vrai croyant qui tombe vraiment, pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'il est impossible pour lui de se repentir, de changer d'avis et de retrouver son chemin? Pourquoi est-ce qu'il est écrit que c'est impossible? Parce que, là, je vais vous en donner un petit peu plus, là, parce que le texte original grec, ça aussi c'est très intéressant parce que ça s'adresse à des Hébreux, mais c'est écrit en grec. Le texte original souligne que celui qui est égaré, là, celui dont on parle dans ce passage-là, le chrétien égaré, cherche par lui-même le chemin du retour. Ah. Donc, comment est-ce que ce chrétien égaré peut trouver la solution, ou si vous voulez, peut trouver la solution avec le raisonnement qu'il a égaré? Est-ce que vous me suivez? Je vais redire ça autrement. C'est comme essayer de trouver votre point de départ. Vous êtes perdu, là? Puis là, vous cherchez votre point de départ, mais avec la mauvaise carte routière d'un autre pays, on va dire. Il y a peu de chances que vous le retrouviez, en tout cas. Ou, en fait, disons-nous, refaire le chemin inverse qui nous a perdus. Refaire le chemin inverse qui nous a perdus, c'est comme essayer de résoudre l'équation 2 plus 2 égale 5 en faisant l'opération inverse. 5 moins 2 égale 2. On va nulle part, on ne règle rien, on tourne en rond. Donc, bon, on va avoir le temps de décortiquer ça pendant le cours. Mais si vous vous rappelez la citation de Luther que j'ai mentionnée au début, où je vais la répéter, concernant la repentance, eh bien là, vous êtes peut-être en mesure de commencer à repérer le verset clé de ce passage-là. Je répète ce que Luther a dit. L'homme est incapable de se relever seul d'un péché quelconque. Et la clé de l'énigme, selon les récentes découvertes, est au verset 3. On va le relire. Petit verset, il est presque accessoire, on dirait, dans le texte. C'est ce que nous ferons. Ferons quoi? Tendre vers la maturité, si Dieu le permet. Et ici, le mot « si », c'est un « si » en lettres majuscules, on pourrait dire. Il y a une emphase énorme mise sur ce mot-là, de la façon qui est écrit dans le texte. Donc, on pourrait, à juste titre, traduire en français. C'est ce que nous ferons, tendre vers la maturité, si seulement et exclusivement Dieu le permet. Ah, ça vient donner un autre éclairage ici. Et après, il explique, car il est impossible pour quelqu'un qui tombe, un croyant qui tombe, de retrouver le chemin du retour. À la lumière de ce que je viens de dire, il y a une dernière question importante qui est soulevée. Est-ce que Dieu veut nous conduire à la maturité? Parce que c'est un « si », un gros « si ». Est-ce que Dieu le veut alors? Eh bien, la réponse, elle est positive, elle aussi. Oui, il le veut, et elle est dans le texte, dans tout ce qui a précédé Hébreux 6 et dans ce qui conclut le chapitre. Mais ça, on va voir ça durant le cours. Notre dilemme à nous, et je suis tenté de dire notre faux dilemme, vis-à-vis les avertissements de l'Épître aux Hébreux, il y en a, bon, certains disent 5, moi j'en ai compté plus. Les avertissements dans l'Épître aux Hébreux nous font paniquer, et c'est un faux problème, je disais, un peu à la ressemblance du problème de l'Ecclésiaste. Et quel était le problème de l'Ecclésiaste, pour ceux qui se sont intéressés à ça? L'Ecclésiaste, En fait, le livre, c'est la perception de quelqu'un qui se croit seul et livré à lui-même, ne voyant ni plus haut ni plus loin que sous le soleil. C'est-à-dire en dehors du point de vue ou de la perspective de Dieu. C'est d'un point de vue purement humain, voici ce que je vois et voici les conclusions obligées que je suis obligé de formuler. Donc, Dieu n'est pas dans l'équation, c'est ça que ça veut dire. Ça prend donc, et en fait, c'est toujours notre point de vue qui nous égare. Bon, presque toujours, disons. Mais de toute façon, ça prend une volonté extérieure à la nôtre pour nous sauver. Demandez à quelqu'un qui se noie de se sortir de l'eau et vous comprendrez que... Ceux qui ne sont pas endormis en ce moment attendent toujours la troisième raison pourquoi j'ai utilisé Luther pour introduire mon sujet. C'est parce que, selon cet héritage qu'il nous a légué, j'aimerais moi aussi appliquer cette méthode, c'est-à-dire de prendre un peu de recul pendant le cours et un peu ce matin, prendre un peu de recul par rapport à certaines traditions bible-parliennes pour les soumettre à nouveau aux tordeurs des Écritures. Si je peux me permettre, j'aimerais, en fait, si Dieu le permet, j'aimerais vraiment ça, glisser un caillou dans vos chaussures de marche avec le Seigneur pendant ce cours, ou pire encore, prendre une poignée de change puis la mettre dans votre brassée mentale pendant un cycle de sécheuse. Tu sais, là, catatling, catatling, catatling. J'espère que le cours va produire ça, je l'espère, pour que ça vous dérange tellement que vous retourniez, si c'est le cas, aux Écritures et surtout à la dépendance au Saint-Esprit. Je vais donc, dans le cadre du cours, vraiment insister, et c'est... Ça ne se veut pas un cours exégétique. Là. On ne va pas essayer de comprendre, OK, c'est qui l'auteur, à qui c'était adressé, où est-ce que ça a été adressé. On va regarder ça, mais très rapidement, je vous le dis tout de suite. Ça se veut, un peu à l'image du texte lui-même, une exhortation, ce cours-là. Vraiment une exhortation. C'est sûr que je suis pogné avec ces dons-là, je vais vraiment aller dans les nuances qui, pour moi, font toute la différence. Donc, on va vraiment se pencher sur l'appel à la maturité. Mais... Surtout, et là, vous allez me trouver fatigant, mais vraiment, je vous le dis tout de suite, vous allez me trouver fatigant. Je vais beaucoup parler, en fait, de la seule base, du seul point de départ et la seule façon possible de continuer dans cette maturité-là. On va parler de la doctrine du repos. Attention. La doctrine du repos, parce qu'on parle de ça dans l'Épître aux Hébreux au début, et on le répète assez fréquemment. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. Cette doctrine repose sur un principe, l'écoute attentive. Ça, c'est une définition de l'obéissance biblique. L'écoute attentive. D'accord? Mais l'écoute attentive de qui ou de quoi? La doctrine du repos repose sur l'écoute attentive de celui qui nous parle. Parce que, pour ceux qui le savent peut-être, sinon vous irez voir, chapitre 12 d'Hébreux, l'auteur nous dit... Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est un peu s'il résumait l'ensemble de son enseignement. Il dit attention, parce qu'il y a un danger. Faites attention de refuser, en fait, d'écouter celui qui parle. OK? Bien, OK. On va essayer d'être attentif à celui qui parle. Mais qui est celui qui parle? Bien, le contexte va nous le montrer. Vous avez compris que c'est Christ qui parle. D'accord? Mais quel Christ? Aïe, aïe, aïe. Soyez attentifs. Qui est le Christ qui parle à son Église aujourd'hui? Est-ce que c'est le Christ sage, la sagesse, notre sagesse? Non. Est-ce que c'est Christ, le docteur de la loi ou l'enseignant, qui nous parle aujourd'hui à l'Église? Non. Est-ce que c'est le Christ briseur d'idoles, révolutionnaire? Qui dérange tout, non plus. Est-ce que c'est le Christ modèle d'intégrité et de droiture qui parle à son Église aujourd'hui? Vous me voyez venir? Non. Alors, si vous êtes futé, vous avez compris que j'ai répondu moi-même non à toutes mes questions. Donc, les trois prochaines, la réponse va être... Mais non! Je prends une petite gorgée. Je vous donne la réponse d'avance. Je suis vraiment un bon prof, là. Hein, vous donne une idée, là. Ça ne sera pas compliqué, le coup, je vous donne une réponse d'avance. C'est non, les trois prochaines. Le Christ qui parle à son Église aujourd'hui, est-ce que c'est le Christ, on va en trouver un autre, rédempteur? Non, bravo, un point. Attention, ça se corse. Est-ce que c'est le Christ crucifié? Non. Ah, peut-être. J'ai un peut-être ici. Ça, c'est quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui veut avoir les points d'un bord ou de l'autre. Est-ce que c'est le Christ ressuscité? On dit peut-être. Merci beaucoup. Au moins, il y a un petit peu de prudence. Merci beaucoup. Je dirais non. Mais écoutez, est-ce que tout ce que j'ai dit est vrai? Oui. Mais précisément aujourd'hui, non. Précisément aujourd'hui, celui qui nous parle, ce n'est pas le Christ de tous ceux que j'ai mentionnés jusqu'à date. Ce n'est pas le Christ crucifié. Christ a été crucifié quand? Il y a 2000 ans, ou plus ou moins. C'est terminé, ça, c'est réglé. Ça avait un but, par exemple. C'était très important qu'on passe par là. C'est vital, en fait. C'est le fondement de la doctrine de la justification. Sauf que c'est passé, ça. Christ ressuscité, c'est-tu passé, ça? Oui, ressuscité, c'est le passage entre la vie et la mort. Christ n'est pas dans l'éternité en train de subir cette transformation constante. Il revient à la vie. C'est pas ça, là. On n'est plus là. C'est terminé, ça, avec. OK, on le comprend. On dit Christ ressuscité. On comprend que c'est fait. C'est obligé. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur s'adresser à vous, c'est obligé d'être le Seigneur vivant et glorifié. Et là, vous allez me trouver fatiguant là-dessus. C'est le Christ glorifié qui parle à son Église aujourd'hui. Et c'est exactement le Christ glorifié qui est oublié par notre chrétien égaré du chapitre 6. Vous remarquerez en lisant le passage qu'on ne parle pas de Christ ressuscité ou glorifié dans ce passage-là. Intéressant, hein? Donc, celui qui a été oublié, celui qui n'est pas vu par le croyant qui est égaré, c'est celui qui est glorifié. Pour faire une histoire courte, Christ glorifié égale repos. Mais c'est aussi pourquoi on fuit le repos. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi l'auteur, en tout cas ceux qui se sont intéressés à la lettre aux Hébreux, pourquoi l'auteur n'arrête pas de parler de ça, à un moment donné, comme il se répète tout le temps? Bien, parce qu'on fuit le repos. Mais non, on aime ça le repos, on aime ça les vacances, c'est pas ça le repos. C'est pas des vacances selon notre point de vue, là. Le repos, c'est le repos de Dieu, le repos de la foi. Ah, OK. On fuit le repos. Et en fait, je vais vous dire même qu'on préfère beaucoup plus avoir raison que d'être sauvé éternellement à la manière de Dieu. On est exhorté à entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire le repos selon son point de vue. Et c'est là que ça nous dérange, le point de vue de Dieu. Imaginez un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ça, c'est la doctrine du repos dans nos faillances et nos porcelaines théologiques de notre justice propre. Fait que, juste pour vous puncher ça en dernier, là, je vais vraiment peut-être vous donner de l'urticaire, ça se peut. Ce n'est pas Christ crucifié qui nous conduit vers la maturité, parce que ce n'est pas Christ crucifié qui suscite la foi. S'il y avait des mouches à ce temps-ci de l'année, on les entendrait voler. Paul dit aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle ne sert à rien, elle n'a pas de but, et vous êtes encore dans vos péchés. » Logiquement, Christ étant ressuscité, votre foi n'est plus vaine, elle a un sens, et vous n'êtes plus dans vos péchés. La fin du chapitre 12, dont j'ai parlé tantôt, dans Hébreux, précise qu'il faut faire attention parce qu'on peut être tenté de se détourner de celui qui parle. Mais le verset 2 précise « celui qui nous parle du haut des cieux ». Christ du haut des cieux, c'est-à-dire Christ glorifié. D'autres citations à l'appui quand même, je ne vais pas vous lancer ça sans le soutenir bibliquement. Hébreux 2, versets 9 à 10. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Est-ce que Christ crucifié était important? C'était vital. Sinon, on serait dans nos péchés encore. Mais il ne fallait pas juste qu'il meure, il fallait qu'il fasse quelque chose avec ça. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est vous et moi, ça. C'est quoi cette gloire? Ça n'a rien à voir que de la prospérité flashante. On va voir ça aussi, ça va être assez simple à comprendre. En fait, c'est ce pourquoi l'homme a été créé. Donc, vers la maturité, vers l'accomplissement. Ça doit être Dieu qui m'appelle, ça, pour me dire « Tu vas un peu trop loin, là. » Verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, le grand boss, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection, c'est quoi ça encore? À son plein accomplissement, en fait. Christ glorifié par les souffrances, effectivement. Donc, mais pour y arriver, pour conduire cette Église à cette maturité, il fallait que lui-même soit glorifié. Le Hébreux 5, verset 8 à 10, et en passant, Hébreux 5, je vous révèle quelque chose, ça précède Hébreux 6. Le contexte. Hébreux 6, c'est pas pondu tout seul comme ça, puis là, je peux extraire quelque chose de ça, puis regarde, c'est marqué, c'est impossible. On perd notre salut, c'est sûr. Hébreux 5 vient avant Hébreux 6, et nous dit, au verset 8 à 10, « Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, la croix, entre autres. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Éternel! Un salut éternel. Mais comment est-ce qu'il peut conduire son Église vers ça, ou à ça, ou dans ça? Il faut qu'il ait d'abord été élevé à la perfection. Le texte le dit ici. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça, en passant, c'est super facile à comprendre. On va régler ça rapidement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hébreux 12, versets 1 et 2. On l'a lu tantôt, là, mais c'était la fin du chapitre. Là, c'est le début. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de gens dans la foi, des chrétiens qui nous ont précédés, qui ont marché avec Dieu, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Drôle de traduction. Ayant les regards sur Jésus, OK? Qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Maturité en passant. Qui suscite la foi et l'amène à sa maturité. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, oui, mais dans quel but? Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est celui qui est assis à la droite du trône de Dieu maintenant, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En fait, si je veux être plus clair, selon l'apôtre Paul, c'est en fait seulement notre attachement au Christ ressuscité, donc glorifié, qui peut nous faire porter du fruit pour Dieu. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Fait que ça vous brosse un peu le tableau. Et je voudrais conclure donc en disant que, à la lumière de ces textes, ce qui fait la grosse différence entre la vie et la mort, et on pourrait dire la vie spirituelle et la mort spirituelle pour le croyant, pas dans le sens qu'il perd son salut, mais entre un chrétien qui porte du fruit et qui n'en porte pas, c'est pas de voir Jésus ou l'Évangile. C'est pas ça qui fait la différence dans notre vie. Savez-vous ça? C'est qui dit ça déjà? Je pense que c'est Jacques. Il dit que le diable, là, il croit en Dieu. Ben, ça ne change rien à sa vie, par exemple, ni à son éternité. Savez-vous quoi? Il connaît mieux l'Évangile que vous et moi. Et pourtant, ça ne le sauve pas non plus. Bon, vous allez me dire, il ne peut pas être sauvé. Bon, en tout cas, c'est pas grave. C'était de la rhétorique que je faisais. C'est pas de voir Jésus ou l'Évangile qui fait une différence. Selon Paul, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est de voir briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, le Seigneur. 2 Corinthiens 4. Voir briller la splendeur de l'Évangile. De quel évangile? De la gloire de Christ. Bon. C'est une question de vie ou de mort, peut-être, mais c'est surtout une question de mort et de vie. De mort et de vie. Parce que c'est une histoire de recommencement. Une nouvelle création. Et ça, on va aussi beaucoup parler de ça, de la nouvelle création qui est déjà commencée. Ah, oui. Je vous laisse avec une question et je vais vous donner un indice pour la réponse. Encore là, c'est généreux quand même. Vous avez presque la moitié des points, là, en commençant le cours. Pourquoi est-ce si important, pourquoi j'insiste tellement, et l'Écriture insiste tellement sur Christ glorifié, Christ seulement glorifié, pour conduire l'Église vers le but que Dieu lui a fixé? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus parvienne à cette position imminente, victorieuse, insurpassable, avant de pouvoir susciter l'Église et la conduire vers la maturité, vers son but? Pourquoi? C'est pas juste, encore, c'est pas de la rhétorique, c'est pas juste dire, ah, mais okay, on va changer notre vocabulaire, maintenant, on va dire Christ glorifié, tout le temps. Ah, ça sert à rien, ça. Pourquoi est-ce que l'Écriture met tellement d'emphase là-dessus? Je vous donne un seul indice, et on va en parler beaucoup pendant le cours. C'est Jean 16, verset 7. C'est Jésus qui parle et dit, « Cependant, je vous dis la vérité, et ça veut dire, écoutez bien, parce que c'est important, il vous est avantageux que je m'en aille. » Trois points de suspension. Vous verrez, vous allez le découvrir vous-même, là, en lisant le passage. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Ou, vers mon Père, que je retourne et retrouve la gloire que j'avais auparavant. Mais maintenant, d'autant plus parce que j'ai passé par la mort, je vais passer par la mort et je vais ressusciter. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? C'est un rendez-vous jeudi. Fait qu'on va prier là-dessus. Mon Dieu, c'est sur ta bénédiction qu'on se repose en ce moment. Si même on s'adresse à toi, si on est ici rassemblés, si on te loue, si on te prie, si même si on est en colère et qu'on on érige des doutes, des questions vers toi avec la colère, c'est encore à cause de ta bénédiction. Parce que tu nous as ouvert un chemin qui ne sera plus jamais fermé. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et il est lui-même en ta présence éternellement. Et nous sommes en lui. Et Christ ne meurt plus. Donc, nous non plus. Merci, Père, de nous accorder ce privilège qui est indescriptible, en fait. On pourrait s'efforcer de le comprendre davantage, et tu veux qu'on le fasse, mais on ne va jamais sonder la profondeur et la richesse de ça, de cette vérité, de ce trésor. Je te prie, Dieu, de bénir ceux qui décident de ne pas prendre le cours, en éveillant des questionnements par ton esprit et en les amenant, Seigneur, à sonder ta parole et à découvrir ce que tu as à leur dire. Et pour ceux qui vont prendre le cours, bien, je te demande, Seigneur, de les préparer à te rencontrer. Et j'espère vraiment que ce sera une dynamique de communion fraternelle et spirituelle. Je te remets cette assemblée qui est précieuse à nos yeux, Seigneur, même si on ne la voit plus beaucoup, elle est proche de notre cœur. Je te demande de la faire prospérer dans tes voies, c'est-à-dire dans la connaissance du Dieu vivant et de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, que le message sorte par le témoignage de ton amour puissant manifesté au milieu de ce corps. Au nom de Jésus, amen. Bon dimanche.